Il y a une petite vache.
Radio Django. Vivre à Lausanne.
Ça, c'est vous, Claudia, qui l'avez amené la vache. Hein.
Ouais, c'est moi qui l'ai amené.
Ou Jean-Michel Brouillard, c'est peut-être vous qui êtes venu avec, vous êtes sur les chantiers.
Je pense que c'est le Conseil fédéral qui est venu avec une boucherie.
18h02, c'est l'heure de la pause syndicale avec vous deux, Valérie et Claudia. Et aujourd'hui, on parle, on l'a dit, d'une épineuse question, des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Et il semble que les syndicats ont déterré la hache de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Claudia?
Alors, en effet, Fabien, la colère des syndicats est à son comble depuis que le département fédéral de l'économie s'est dit prêt à manager les mesures de protection des salaires pour répondre aux attentes de l'Union européenne. Mais on va entendre tout d'abord deux réactions à ce sujet.
Non seulement les syndicats se trompent, car il n'est pas du tout question de remettre en cause la protection des salaires des travailleurs, mais en réalité, ils se tirent une balle dans le pied puisqu'ils mettent en péril les bilatérales. Ce faisant, ils mettent en péril l'emploi en Suisse et donc ils plaident en réalité contre les gens qu'ils sont censés défendre.
C'est des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies. C'est là-dessus que les syndicats se sont engagés auprès du peuple suisse aussi pour soutenir la voie de la libre circulation et des accords bilatéraux. Si on touche à ça, c'est une remise en cause de la protection des salaires, c'est une remise en cause des salaires suisses, mais aussi c'est une protection des salariés européens qui viennent travailler chez nous. C'est tout simplement discriminatoire et pour nous, ce n'est pas négociable. On le répète ici et je le répète, ce n'est pas négociable la question de la protection des salaires en Suisse.
C'était donc Christian Luchaire, député PLR, et Aldo Ferrari, vice-président du syndicat UNIA, qui parlait des concessions réclamées par l'Union européenne à la Suisse en vue de la signature d'un accord cadre avec l'UE. De toute évidence, les fronts sont figés, n'est-ce pas Valérie?
Oui, tout à fait Fabien. La situation est clairement bloquée. L'Union syndicale suisse a annoncé le 8 août dernier qu'elle boycottera la consultation sur les mesures d'accompagnement menées par le conseiller fédéral Johann Schneider-Hamann. Et vendredi dernier, le 28 septembre, son assemblée des délégués a confirmé ce refus de négocier un accord cadre si cela signifie le démantèlement des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes.
Et ce soir, nous allons chercher à comprendre en quoi consistent ces fameuses mesures d'accompagnement, comment elles s'appliquent et en quoi elles sont importantes pour les travailleuses et les travailleurs, grâce à notre invité du jour, Jean-Michel Brouillat, secrétaire syndical dans le secteur du bâtiment chez UNIA. Bonjour.
Bonjour.
Les mesures d'accompagnement sont peu connues du grand public. De quand datent-elles et en quoi il s'agit-il exactement?
Les mesures d'accompagnement, c'est principalement tout les législations sous toutes ses formes qui permettent de protéger le droit du travail. C'est la loi, c'est la LTR, c'est le code des obligations, mais c'est principalement en Suisse les conventions collectives. Le droit du travail en Suisse, il est minimaliste. On n'a même pas un salaire minimum. On n'a même pas l'obligation d'avoir une assurance perte de gain en dehors du cadre des conventions collectives. Donc on voit bien déjà la pauvreté, la précarité qu'engage le droit du travail en Suisse tel qu'il est. Le moyen de protéger les travailleurs qui a été choisi en Suisse, dans la culture suisse, c'est le partenariat social. Le partenariat social, c'est le développement des conventions collectives. Donc, par conséquent, pour chaque pays vit la libre circulation, le droit du travail s'exprime différemment. Ici, c'est les conventions collectives. Et si on n'a pas des conventions collectives fortes, on n'a pas de mesures d'accompagnement fortes. Donc évidemment que ce qui est dans le viseur des mesures d'accompagnement et de l'affaiblissement des mesures d'accompagnement, ça ne peut être ici en Suisse que le droit du travail qui passe par les conventions collectives.
Alors avant d'entamer le détail de ce sujet, on va peut-être faire un petit tour pour se mettre dans l'ambiance, un petit tour sur un chantier.
Bonjour.
Bonjour.
Contrôle de chantier.
Bonjour.
Inspecteur Pochon, vous êtes de quelle entreprise?
Société AMG Fait Chose.
AMG?
AMG Fait Chose.
AMG Fait Chose, Société Genevoise?
Non, mais j'ai mon chef, il est là.
Votre chef, il est là? Oui. C'est une société française?
Oui.
Vous avez fait une annonce?
Descends! Contrôle, descends!
Voilà, s'il vous plaît. Bonjour. Inspecteur Pochon des contrôles de chantier. Vous êtes de Spantec?
Crescentiel.
Voilà. Alors, comme d'habitude, on va leur faire remplir la petite feuille. C'est en quelle langue cette fois?
Polonais.
Polonais. Il veut polonais, anglais?
Polonais.
Polonais, 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 polonais. Tous polonais?
Polonais.
On vient d'écouter un extrait de l'émission mise au point de la RTS du 21 août dernier qui revenait sur la question des travailleurs détachés. Expliquez-nous alors, Jean-Michel Bruyat, comment ça fonctionne sur le terrain concrètement, ces contrôles pour les mesures d'accompagnement.
Disons que les entreprises qui viennent de l'étranger doivent déjà s'annoncer. Elles doivent s'annoncer et normalement, on a la règle des 8 jours qui doit permettre aux contrôleurs de chantier d'analyser la situation en amont. Afin que lorsqu'ils font leur contrôle, comme vous l'avez entendu dans le documentaire, ils puissent cibler leur contrôle et avoir des contrôles pertinents. Il faut juste se rendre compte que s'ils ne font pas ce travail en amont, ils sont complètement inefficaces. Déjà que leur efficacité est déjà minime, étant donné qu'ils sont très peu nombreux par rapport à la masse de travail considérable qu'ils ont. Juste un petit exemple. Moi, je suis un simple secrétaire syndical qui couvre une toute petite partie du canton de Vaud. Sur ma tournée de chantier, j'ai 100 de chantiers. On est 8 secrétaires syndicaux dans le canton de Vaud qui s'occupent juste du gros œuvre et du bâtiment. Donc on peut extrapoler puis imaginer que ça fait environ 800 à 1000 chantiers à contrôler.
Vous devriez être combien pour avoir le temps de tout voir les chantiers ?
Je pense que pour le travail syndical, 8 comme on est là, c'est bien, mais pour les contrôleurs de chantier, c'est largement insuffisant. Je pense qu'on peut largement tripler le nombre. Il faut savoir qu'un contrôleur de chantier, il ne va pas s'occuper seulement que des maçons, il va s'occuper des maçons, du second œuvre, de tout ce qui est de l'artisanat, sanitaire, électricité. On a donc tout ce qui a directement attrait au bâtiment, mais c'est aussi les échafaudeurs, c'est aussi les paysagistes. Donc c'est une masse de travailleurs immense sans aborder le problème des travailleurs détachés. On parle là simplement des chantiers courants.
Donc, il y a ces mesures d'assouplissement qui sont proposées, évoquées par les conseils fédéraux, qui sont vraiment provoquées la colère de syndicats qui s'opposent, mais quelles sont concrètement les conséquences sur le terrain pour les travailleurs et travailleuses?
Comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, déjà, le contrôle, il est faible, il est difficile. Donc, si on a cette concurrence qui vient se renforcer de la part des travailleurs détachés, on sera dans un chaos total. On n'arrive plus à faire face à la situation. À l'heure actuelle, déjà, on trouve déjà des aberrations. On trouve des gens qui travaillent à 9 francs de l'heure. On trouve des gens qui travaillent dans des conditions détestables. Alors, si demain, on affaiblit encore ces mesures, je ne vois pas d'ailleurs où on peut le faire, quoi. Ça serait une aberration totale. Je constate déjà au quotidien comment il est dur de faire appliquer ce qui a lieu d'être appliqué. Donc, si on vient encore affaiblir, pour affaiblir, faudrait-il avoir encore une marge de manœuvre ?
Et par rapport à, justement, si on supprime cette règle des 8 jours, si on limite le nombre de contrôles sur les chantiers, comme évoqué par le Conseil fédéral, est-ce qu'il y a des types de travailleurs qui seront encore plus vulnérables que d'autres par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer concrètement et qui sont les travailleurs le plus affectés si on permet aux conditions de travail de se détériorer encore plus ou en tout cas de moins les contrôler?
Disons que ces mesures d'accompagnement, si on les affaiblit, on ne fait que exacerber la problématique existante déjà. Donc tous ceux qui sont déjà fragilisés sont les premiers à sauter. Les plus âgés, les plus précaires, ceux qui ont les peu diplômés, les temporaires, tout ce monde qui est déjà fragile va se confronter tout de suite dans un premier lieu. Mais à très court terme, moyen terme, ça va impacter tout le monde du travail. Parce que ça fait comme un écho, ça fait comme une vague de précarisation. Vous facilitez l'entrée dans le territoire à des travailleurs qui sont déjà fragiles dans leur pays et vous les mettez en concurrence avec les plus fragiles des nôtres, automatiquement, vous créez une vague sans précédent de précarisation de tous. Donc ces mesures d'accompagnement sont censées déjà protéger les plus fragiles d'entre nous. Donc automatiquement, c'est ceux-là qui seront exposés.
Et puis, est-ce qu'il n'y a que le secteur du bâtiment qui est concerné ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont concernés ? Comment ça se passe ailleurs ?
Il y a certainement d'autres secteurs, mais c'est vrai que c'est le bâtiment, l'artisanat qui sont en premier lieu sur le front. Hein. C'est là où déjà se développent les travailleurs détachés. À l'heure actuelle, à l'heure où on est censé faire des contrôles et travailler là-dessus. Maintenant, d'autres domaines, l'agriculture, d'autres domaines vont pouvoir être touchés. Mais c'est dans les métiers où il suffit de déplacer la main-d'œuvre qu'on a tout de suite un impact.
On sait que plusieurs syndicats européens ont fait savoir qu'ils soutenaient l'USS dans son refus de lâcher quoi que ce soit sur les mesures de protection du travail. En quoi cette résistance est-elle utile aussi aux travailleurs du reste de l'Europe ?
Parce que derrière cette problématique, on a un affrontement organisé des travailleurs les uns contre les autres. On a vu à quel point cette politique qui a été appliquée dans le sud de l'Europe a fait des dégâts. Je ne vous parle pas déjà de la Grèce, l'Espagne, le Portugal. On s'est attaqué au droit du travail en France, là où il y a quand même des syndicats forts qui essayent de défendre le droit du travail. Et puis maintenant, vient notre tour. Donc on s'aperçoit que personne n'y échappe. Il y aura toujours quelqu'un de plus précaire, de plus pauvre que nous, qu'on pourra mettre en concurrence pour niveler plus bas. Donc rentrer dans ce jeu... c'est encourager le nivellement par le bas du droit du travail. Doit-on s'aligner sur ceux qui sont déjà le plus précaires en Europe ? Où va s'arrêter cette atteinte aux plus pauvres d'entre nous ?
Où va s'arrêter cette atteinte, effectivement ? C'est ce qu'on retiendra de vos propos, Jean-Michel Brouillat. Merci beaucoup d'être venu ce soir au studio de Radio Django pour nous parler de ce qui vous concerne, le bâtiment. Je rappelle que vous êtes secrétaire syndical dans le secteur du bâtiment chez Uniavo. Une bonne soirée.
C'est possible de rajouter quelque chose ?
Allez-y, on vous écoute.
Ça tombe bien parce que je vous remercie de me donner l'occasion de prendre un micro car on est en train justement de mener une lutte pour défendre le contrat de travail des maçons. La convention collective du bâtiment. C'est un exemple flagrant. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un hasard, qu'il y a un coup de baguette magique temporel qui fait qu'à l'heure actuelle, on subit une attaque violente, comme on n'en a jamais subi, pour la convention collective du bâtiment, alors qu'en même temps, on a ces renégociations des mesures d'accompagnement. On voit bien le parallèle. J'ai vraiment l'impression, quand je vois les atteintes qui sont faites, les propositions patronales qui sont mises sur la table, plus de flexibilité du temps de travail, on parle d'une flexibilité outrageante, quoi. On parle de plus de 100 heures supplémentaires, moins 100 heures. Qui a une flexibilité de 300 heures dans son temps de travail ? Alors que c'est un temps de travail qui compte déjà 2112 heures dans l'année. Donc c'est déjà énorme. La convention par elle-même prévoit à l'heure actuelle la possibilité de cumuler 100 heures. Donc on voit qu'on a une flexibilité qui était déjà organisée dans la convention et on en veut toujours plus, on en veut toujours plus. Et à chaque rencontre qu'on fait avec les patrons dans ce renouvellement de convention, ils rechargent le bateau, ils viennent avec des propositions encore plus agressives, encore plus précarisantes. Donc on sent leur volonté à ne pas trouver un accord, à repousser le syndicat à une situation où il ne pourra pas signer un accord. Moi, j'invite tous les travailleurs à se mobiliser avec nous. Parce que si on ne se mobilise pas, on va se retrouver devant quelque chose d'énorme. Le vide conventionnel dans la construction, ça serait une ouverture massive aux travailleurs détachés. Là, c'est la réalisation complète de la politique européenne qui est proposée. Ils ont donc deux biais, ou continuer sur les mesures d'accompagnement directement par les négociations, ou faire tomber la convention principale du bâtiment, qui est la convention qui sert de référence et d'exemple au développement des conventions et du partenariat social partout en Suisse. Tout le monde a y perdre, les travailleurs et les patrons dignes de ce nom. J'invite tous les travailleurs à venir le 5 octobre avec nous, les travailleurs de la construction. On fait une grande assemblée générale à Beaulieu à 19h30.
Voilà, le rendez-vous donc est transmis pour vous rejoindre le 5 octobre pour lutter contre cette question plutôt délicate de la mise au concours et de la modification de la convention de travail pour les maçons notamment et le bâtiment. Merci beaucoup Jean-Michel Bruyat, une très bonne soirée. 18h17, l'heure de passer aux nouvelles de l'actualité syndicale avec les brèves qui nous sont proposées par Claudia et Valérie.
Loi sur l'égalité, les femmes du SSP rougent de colère.
Alors que plus de 20 000 femmes et hommes solidaires ont manifesté samedi pour réclamer la fin des inégalités et des discriminations, la majorité du Conseil national a encore réduit la portée de la révision de la loi sur l'égalité. Il a édulcoré un projet déjà vide de contenu. Dans sa version actuelle, la loi ne prévoit aucun contrôle ni sanction. Moins de 1% des entreprises seraient concernées, uniquement celles qui comptent plus de 100 postes équivalents plein temps. La révision de la LEG retournera donc au Conseil des États qui en débattra dans la session d'hiver. Les femmes du SSP qui travaillent souvent dans des secteurs dévalorisés comme dans les soins ou l'accueil de l'enfance ne vont pas se contenter de cette révision de la loi minimaliste. Elles exigent la mise en œuvre du principe constitutionnel à travail de valeur égale, salaire égal. C'est une des raisons pour lesquelles les femmes du SSP s'engagent résolument pour une grève féministe le 14 juin 2019.
Nouvelle convention collective de travail CFF et CFF Cargo.
Les CFF et les associations du personnel se sont mis d'accord sur une nouvelle convention collective de travail pour les CFF et CFF Cargo. Celle-ci entrera en vigueur le 1er mai 2019 et fixe les conditions de travail et d'embauche pour les trois prochaines années. Les deux parties se disent satisfaites du résultat. Le vote des délégués du personnel est clair avec 85% d'acceptation. Cette convention est le fruit des négociations intenses menées durant plusieurs mois. C'est grâce à la mobilisation du SEV sur le terrain que les négociations ont pu aboutir à des propositions satisfaisantes pour le personnel. Parmi les améliorations obtenues, on note que le droit pour le personnel de ne pas devoir être joignable durant son temps libre, ainsi que le prolongement du congé paternité de 10 à 20 jours. Les CFF ne suppriment pas la protection contre les licenciements pour des motifs économiques pour ceux qui travaillent au CFF depuis plus de 4 ans. Par contre, les conditions cadres de la réorientation professionnelle seront durcies pour les collaboratrices et collaborateurs ayant un salaire élevé.
Eh bien, merci beaucoup Valérie et Claudia pour cette pause syndicale qui nous a éclairé sur les enjeux syndicaux autour des mesures d'accompagnement de la libre circulation des personnes. Et puis également pour ce petit bref journal des brèves syndicales. Valérie, j'espérais entendre parler justement du congé paternité un petit peu plus longuement.
Alors, le congé paternité, c'est donc effectivement une avancée quand même assez spectaculaire dans cette convention collective qui concerne alors tout le personnel des CFF. Mmh. Et à titre personnel, je trouve, et c'est pas encore dans beaucoup d'entreprises qu'on a réussi à avoir ces 2 semaines de congé paternité. Il y en a qui arrivent, mais on peut que saluer le fait que dans une grande entreprises comme les CFF, on ait obtenu cette avancée majeure.
Et le gouvernement en a parlé d'ailleurs la semaine dernière également pour d'autres entreprises, hein, globalement pour un congé paternité plus long pour tout le monde. Merci beaucoup Valérie pour ces précisions. Une pause syndicale que vous pouvez retrouver sur notre site django.fm avec toutes les autres, les brèves, les actus et les liens. Évidemment, tout ça proposé par vous Valérie, par toi Claudia également et Anna-Maria qui a tout mis ça sur le site. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain ?
Oui. Oui, à dans un mois.
À dans un mois, absolument. Voici un hommage au grand Charles Aznavour qui nous a quittés hier, lundi 1er octobre.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a je donnerai ce que j'ai.
Pas tout à fait.
Pour retrouver,
je l'admets.
Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes. Mes relations.
Ah, mes relations.
Sont
vraiment sont
haut placées.
Très haut placées.
Décorées.
Très décorées.
Influents.
Très influents.
Bedonnants.
Très bedonnants.
Des gens bien.
Très, très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près de
tout près de,
j'ai toujours le regret de mes amis,
mes amours,
mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains.
Tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais.
Mes amis,
mes amours.
Mise en merde, chanson de 1976, signée Charles Aznavour, qui, vous l'avez appris, nous a quittés hier, à l'âge de 94 ans, chez lui, dans les Bouches-du-Rhône. Une chanson pour souligner 70 ans de carrière d'un monument de la chanson française. 18h24, on continue ce grand direct avec La Rose des Vents.